moins disposé à venir.
Voilà. Alors, donc, je vous propose de commencer sur notre recours adressé au tribunal administratif de Dijon. Il y a donc ce recours pour ce qui concerne l'arrêté d'interdiction de notre réunion il y a 15 jours. Et puis, il y a un autre recours dont on va parler après, concernant la demande de documents administratifs, puisqu'on a une réponse de la mairie de ce point de vue-là. Pour ce qui concerne la procédure d'attaque d'un acte administratif, puisque c'est comme ça, acte attaqué, les choses sont extrêmement... Alors bon, c'est la première fois de ma vie que j'attaque un acte administratif, et le site recourscitoyen.fr, hein, très très bien fait, très efficace, voilà. Donc, au titre de président d'association pour promotion du débat citoyen, j'ai entamé cette procédure, cette action, communiqué toutes les pièces au tribunal, qui à chaque fois accuse, réception, etc., etc. Et là, donc, nous avons reçu. Nous avons reçu une lettre du tribunal administratif de Dijon, puisque ça se passe à Dijon. Alors, c'est des documents qui nous parviennent via le site. Hein. On est informé, ça marche bien, hein, cette procédure par Internet. Un courrier qui dit deux choses, bon, je vous fais un peu grâce de la formulation précise, bon, qui demande d'une part... que je précise mon identité, puisque je demandais association, donc il faut que je prouve, j'envoie les statuts qui indiquent bien que je suis président, puisque je suis le requérant. Et puis, alors, surtout, je vous informe également que même après l'introduction d'un recours devant le juge administratif, vous pouvez vous entendre avec les parties adverses pour recourir à une médiation. Et vous pouvez demander à la juridiction de l'organiser. Donc, nous avons en fait trois possibilités. Soit nous continuons l'action sans chercher à l'interrompre par une médiation, une tractation, une transition. Comment on appelle ça en termes de droit du travail, un départ négocié, c'est pas une tractation, c'est pas une transition non plus, je trouve pas le mot.
Conciliation.
Ouais, non, il y a un mot, c'est une... Bon, enfin, bref. Qui permet, je dirais, à l'employeur et à l'employé de s'entendre.
Une négociation.
Oui, voilà. Et donc, il peut y avoir une médiation, c'est-à-dire qu'on peut proposer à la partie adverse, proposer un deal, en quelque sorte, moyennant quoi, on arrête la procédure. Ou on peut, troisième possibilité, demander au tribunal, non pas... de continuer à instruire, hein, mais d'organiser lui-même une médiation. C'est-à-dire que le tribunal, exactement comme fait le médiateur de justice, le médiateur de la République, je crois qu'on appelle ça, une procédure que je connais un petit peu, et là, donc, le médiateur convoque, en général, c'est un requérant, et le médiateur convoque celui qui est attaqué. Il le convoque, mais il n'est pas obligé de venir. Enfin, voilà, donc c'est la procédure de la médiation. Et le tribunal indique que la procédure contentieuse sera suspendue le temps de la médiation. C'est-à-dire si on engage une médiation, la procédure sera suspendue. Si celle-ci échoue, c'est-à-dire si la médiation échoue, la procédure contentieuse reprendra son cours sans que puissent être invoqués devant le juge les échanges intervenus au cours de la médiation. Donc, on engage une médiation, ça n'aboutit pas, on repart à zéro et on ne tient pas compte de ce qui a pu être produit ou de ce qui a pu être dit pendant le cours de la médiation. Donc, je soumets à votre opinion ces trois voies possibles. On continue la procédure de façon, je dirais, les œillères, soit on propose une médiation à M. le maire de Couches, soit on demande au tribunal d'organiser une médiation.
Je voulais demander
Est-ce que ces procédures-là vont coûter de l'argent ?
Non.
Et à qui ?
Non, non. Non. Elle, à ce stade-là, ne coûte pas d'argent. Ah oui, c'est important, oui.
Non. Jusqu'à la consultation du tribunal, il n'y aura pas à payer les démarches et tout ça. Enfin, je voulais savoir.
Alors,
si jamais ils nous demandent à l'association 1000 euros pour les frais de déplacement du juge ou...
Alors, très très bonne question. D'après ce que j'ai compris, parce que c'est... j'ai eu l'expérience des tribunaux, notamment en civil, en prud'homme, pas mal, un petit peu dans le financier. Mais donc, tribunal administratif, c'est la première fois que j'attaque un acte administratif. Bon, alors, j'attaque en tant que président de l'association. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de frais, aucun. Il peut y avoir des frais si on prend un avocat. Mais j'ai compris aussi que la présentation d'un avocat, se munir d'un avocat, n'était pas obligatoire. On a certains cas de procédure où c'est obligatoire, mais là c'est pas obligatoire. Donc on peut se défendre soi-même ou présenter ses arguments soi-même. Donc a priori, il n'y a pas de frais.
Bon, à partir du moment où on a eu la salle aujourd'hui, moi j'ai plus simple quand même.
Oui.
Hein, franchement.
À la médiation.
Oui.
Je pense aussi. Je pense aussi.
Ce que j'allais. Salle,
ce que j'allais proposer.
Moi, je me dis, voilà.
Voilà.
On peut supposer qu'il y ait eu une erreur.
Nous avons évoqué en off, hein, nous avons évoqué en off les différentes motivations qui avaient pu être. Parce qu'on est quand même toujours stupéfait de cet arrêté, les motivations qui avaient pu venir. Et puis, on a évoqué aussi des motivations qui ont fait que ça n'a pas eu de suite, qu'il n'y a pas eu un retrait définitif de la salle et qu'aujourd'hui, la clé nous a été donnée avec un grand sourire. Voilà. Donc, alors, il y a une chose, je pense, qu'on peut dire en enregistré, c'est que, en tout cas, il y a un résultat. À ça, c'est que les gens qui avaient déjà bien peur de venir, ils ont encore plus peur, puisqu'on nous fait passer pour des terroristes dangereux, frotteurs de troubles. Donc les gens ne sont pas prêts à se montrer, n'est-ce pas, dans ce lieu de conspiration et de subversion. Voilà. Bon, mais eux. Bon, ce n'est que le début. Nous avons commencé à faire bouger les lignes un tout petit peu. Et voilà, c'est que le début. Donc, médiation. Médiation, oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis pour les anti-médiation. Médiation, ça veut dire qu'on va proposer quelque chose. Hein? Alors, moi, je vous suggère de réfléchir à un texte. Enfin, en fait, médiation, c'est un deal. C'est-à-dire, nous retirons notre plainte au tribunal administratif. Par contre, vous faites quelque chose. Et à mon sens, le fait de nous avoir, je ne dis pas redonné la clé, puisque c'était la normalité, ça. Mais je pense qu'il faut qu'on nous donne un peu quelque chose en échange. Voilà. Donc je vous propose de réfléchir là-dessus. Ce serait en fait, dans mon idée, demander à ce que monsieur le maire fasse une déclaration officielle, une déclaration. Pas de conférence de presse, mais qu'il fasse passer un communiqué d'une façon ou d'une autre, disant que l'Assemblée citoyenne n'est absolument pas fauteuse de troubles, qu'il y avait eu peut-être des informations erronées. Mauvaise interprétation, qu'il y avait eu une mauvaise interprétation, etc. Et que, moi j'aimerais quand même qu'il soit mis dans ce communiqué. Qu'il l'informe la population couchoise qu'elle n'a rien à craindre à se rendre à l'Assemblée. Il faut quand même que cette chose soit dite d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ouais. Hein? Je pense que donc on peut peut-être réfléchir, faire circuler.
Mais je ne maîtrise plus les horloges.
Oui, oui, oui.
Ben ça, c'est bon.
Mais tu sais que ceux qui arrivent en retard, ils mettent la titine au milieu. Hein? Voilà. Voilà, donc je résume très rapidement pour les retardataires. Le tribunal administratif à propos, donc on voit la première affaire, hein, celle du recours concernant l'arrêté d'interdiction nous propose, enfin, nous propose pas, je suppose que c'est une rédaction, rédaction systématique, qu'on peut faire une médiation, c'est-à-dire qu'on peut proposer à la partie adverse une médiation, on peut même faire cette médiation sous l'égide du tribunal. Bon. Donc l'idée, ce serait soit on continue avec les œillères à faire donc ces recours, soit on propose à monsieur le maire une médiation en disant nous abandonnons notre action vis-à-vis du tribunal. Voilà, mais donc il y a un deal, traitement, et j'étais en train de dire au moment où tu arrivais que en accord, je pense, avec qu'il fallait qu'on réfléchisse à un texte qu'on allait proposé à monsieur le maire, où on lui dit ok, on arrête notre procédure, mais il faut que vous fassiez un communiqué. Bon, je récapitule pour qu'on sache d'où on part, que vous fassiez un communiqué par voie de presse ou autre, disant que bon, il y a eu un petit loupé, qu'en fait l'Assemblée n'est pas du tout trublionne, c'est pas un fauteur de troubles, et que les gens de couche peuvent aller sans crainte, hein, fréquenter l'Assemblée. Qui, voilà.
Première remarque, est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? Parce qu'on a demandé au maire de dialoguer, enfin d'avoir des infos pour essayer de construire, non pas une commune en parallèle, mais quelque chose qui soit voilà, une partie du mur à construire. Et puis la deuxième chose, c'est exploiter ça médiatiquement en vue des élections pour que à la prochaine échéance municipale on soit pas dans les mêmes travers avec des gens qui sont faits au dos, qui sont non moi c'est moi qui suis le patron etc. On discute pas avec moi, c'est moi qui fixe les trucs. Enfin je veux dire il faut qu'on l'utilise intelligemment cette affaire-là.
C'est-à-dire, alors, sois précis.
Ben, c'est, pour être précis, je dirais, aide-moi. enfin, c'est à chaud, hein, parce que j'arrive, je sais pas. Mais,
alors, pour
c'est pas que je veux donner des leçons de démocratie.
Non, mais attends,
je suis pas plus démocrate. D'abord, la démocratie, c'est pas un truc qu'on l'est ou on l'est pas. La démocratie, c'est un lien entre deux personnes. Soit on se comporte de façon... Je peux dire que je suis démocrate. L'autre jour, tu avais un truc pertinent, Serge. C'est-à-dire, c'est le jeu à qui est le plus démocrate que l'autre. C'est vrai. Mais la démocratie, c'est pas un État. C'est une relation. C'est dans chaque événement qui arrive dans nos vies, il faut qu'on ait un comportement... de démarche envers les autres et les autres envers, vous voyez, il y a un échange. Et là, finalement, dans cette histoire-là, ce qu'on observe, c'est que le maire, ben, finalement, il ne souhaite pas avoir d'échange. Il veut finir et là, c'est juste un fait divers.
Je fais un point technique. Ce que tu dis, bon, c'est un débat là. Bon, on parle d'un point extrêmement précis. Hein. Il y a eu un arrêté d'interdiction de réunion. Voilà. Bon. Donc, on traite cette affaire. Cette affaire, cet arrêté d'interdiction de réunion fait l'objet d'un recours que j'ai pris en charge en tant que président de l'association, etc. Et le tribunal administratif, puisque ça marche très très bien par internet, télérecours.fr, c'est vachement bien. Et donc là, il y a une lettre du tribunal administratif qui dit qu'ils ont bien reçu toutes les pièces, etc. Ils demandent une pièce de complémentaire.
Mais ça, c'est un formulaire standard, ça. Quand tu le
reçois, non. Alors oui, c'est un courrier standard, si tu veux. Mais ce courrier dit une chose importante. Il dit, alors je relis la phrase, « Je vous informe également que, même après l'introduction d'un recours devant le juge administratif, vous pouvez vous entendre avec la partie adverse pour recourir à une médiation. Vous pouvez demander à la juridiction de l'organiser. » Et ça continue, « La procédure contentieuse sera... suspendu si vous demandez cette médiation, tout le temps de la médiation. Si celle-ci échoue, la procédure contentieuse reprendra son cours sans que puisse être invoqué devant le juge les échanges intervenus au cours de la médiation. » Donc, la question extrêmement précise, hein, on essaie de ne pas délayer, de rester sur du factuel, c'est soit on continue la procédure telle qu'elle est commencée sans s'occuper de médiation, soit on déclenche une, on propose une médiation amiable, c'est-à-dire nous et monsieur le maire, soit on demande une médiation sous l'égide du tribunal administratif. Voilà, trois possibilités. Et donc, je refais l'état des lieux avant que tu arrives. Nous en étions, donc nous étions d'accord, tous ici de façon assez consensuelle, pour dire que on proposait une médiation amiable. C'est-à-dire que nous allions écrire à monsieur le maire en lui disant nous envisageons donc d'interrompre le recours dans la mesure où voilà, vous acceptez de reconnaître que l'Assemblée citoyenne n'est absolument pas fauteuse de troubles, que vous avez eu, vous avez eu de mauvaises informations, vous êtes confondu. Bref, ça c'est à lui de voir comment il peut expliquer le fait qu'il a pris cet arrêté et qu'aujourd'hui, en fait, cet arrêté n'est pas pertinent. Et j'indiquais personnellement que je tenais à ce que ce communiqué fasse état, que le maire dise que les citoyens de Couches n'ont aucun danger, ne risquent rien à venir à l'Assemblée. Voilà.
Mais dans le caractère qu'on a constaté de M. Lecomte, c'est pas le genre de propos qui va tenir. Est-ce qu'il a déjà donné une réponse, des raisons pour lesquelles il avait fait l'interdiction?
Alors,
quelle était la enfin,
effectivement, il y a eu, il y a eu une lettre que vous connaissez, qui a été faite, qui lui a, avant qu'on déclenche, on a laissé une semaine de délai, avant que nous déclenchions le recours au tribunal administratif, on lui a demandé de nous donner les raisons des craintes, quels étaient les motifs. Il n'a rien donné. Bon. Ceci étant, il s'est passé sans doute un certain nombre de choses, enfin bon. Choses ont dû être dites, parlées. Toujours est-il que cet arrêté n'a pas eu de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu
un deuxième arrêté pour aujourd'hui.
Un deuxième arrêté ou, disons, plus logiquement, personnellement, je pensais qu'il y avait une logique derrière cet arrêté, qu'ensuite, il y ait un retrait définitif de la salle. Bon, ça n'a pas... Bon, donc, manifestement... Sans faire d'interprétation, aujourd'hui, on a une lisibilité, une lecture de la situation, comme quoi il y a eu un problème le 26 octobre. Quel est-il ? On ne sait pas. Si peut-être M. le maire va nous donner une explication, et puis on n'en parle plus, tout rentre dans l'ordre. Donc, moi, je considère que c'est pas nécessaire de jeter de l'huile sur le feu, dans la mesure où on a suffisamment, de travail qui nous attend.
Bien sûr, parce qu'on a beaucoup de choses plus intéressantes à faire.
Par rapport, oui, des problèmes tellement de choses intéressantes, des tâches importantes par rapport à l'audit communal, que il me semble que, voilà. En tout cas, s'il doit y avoir un élément d'apaisement dans cette affaire, je ne vois pas pourquoi on aurait, nous, une posture de raidissement systématique.
Merci. Tout à fait d'accord. Dans le courrier envoyé au monsieur le maire, je propose d'employer le thème qu'a employé Jean-Louis, la démocratie est une relation. C'est vrai que je n'avais pas vraiment cette image. Et que
c'est pas un état, on l'est ou on l'est pas, non.
Oui, c'est une relation. Très bien.
C'est une notion qui peut-être lui être évoquée.
Oui, ça porterait
la démocratie est une relation.
Est-ce que Jean-Pierre, tu peux te charger de faire un projet de...
Non,
de...
je ne peux pas.
D'accord, non, mais... Et que quelqu'un veut se charger de faire un projet de lettre.
Moi, je suis trop sanguin.
Oui.
Moi, je suis un caractère qui n'a pas la souplesse, qui cherche à avoir de la souplesse, mais qui n'a pas.
Allez, bon, Yves.
Si je n'ai pas suivi l'affaire vraiment régulièrement depuis le début.
Non, mais l'affaire est très simple. Hein. Il y a eu un arrêt d'interdiction pour le 26. On fait une conciliation en disant, bon, on n'en parle plus. On n'en parle plus. On arrête notre action au tribunal administratif. En échange, on veut un petit quelque chose quand même. Voilà.
Vas-y.
Peut-être que dans ce courrier, il serait intéressant de noter que l'Assemblée citoyenne a envie d'avoir des bons rapports avec, oui. Avec le maire et ses conseillers. Parce oui. que si on n'a pas de bons rapports, on ne pourra jamais travailler ensemble. On ne pourra jamais travailler ensemble.
Exact.
Donc c'est une des raisons pour arrêter l'affaire ici, et puis que finalement, chacun sache qu'on a besoin les uns des autres.
Bon, alors, oui.
Alors moi, je suis aussi d'accord pour une conciliation, mais quand même avoir une exigence de réponse du pourquoi. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça?
Moi, je ne demanderai pas ça, parce que c'est pas la peine de faire manger son chapeau à ce homme-là. Il suffit...
Non, il mérite pas...
Non,
mais en fait...
Il suffit... Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de forcer dans ce sens-là. Non, mais... est-ce qu'on a vraiment besoin, nous, de savoir ces raisons?
Oui.
Réellement. Moi, je suis pas sûr, non.
Alors, moi je dirais oui, on a besoin de savoir.
On n'est pas un tribunal.
Parce que c'est un bon éclat. Non, c'est pas un tribunal.
Non, mais on
n'y ira pas. Moi, je veux pas mettre le.
Si on allait au tribunal, oui.
Lui, il m'a mis, mais
on y va pas.
Et moi, je veux pas le mettre. Mais c'est quand même bien de savoir, du point de vue intellectuel, ce qui s'est passé.
Je crois pas.
Mais peut-être que c'est simplement un truc psychologique pour lui. C'était, je sais pas, une crise de bouton rouge ou je sais pas quoi.
Si je peux me permettre, dans le cadre de l'éthique du droit, je connais un petit peu le droit. Hein, soit on est dans une procédure
judiciaire.
De judiciaire, soit on est dans une procédure de médiation. Bon. Si on est soit dans une logique judiciaire ou une logique de médiation, si on est dans une logique de médiation, on peut très bien ne pas pousser pour savoir quelles sont exactement les motivations qui ont fait que. Hein. Bon. La logique de médiation, c'est de dire on arrête les procédures d'attaque de l'acte, c'est pas un terme grossier, c'est le terme judiciaire employé dans le cadre du tribunal administratif. On arrête l'attaque de l'acte et on vous demande pas pourquoi. En fait, s'il veut le dire, il le dit, mais on lui demande simplement qu'il dise que cet acte est retiré. Voilà, et que, parce qu'il faut quand même que certaines choses soient dites, que l'Assemblée n'est pas fauteuse de troubles, qu'ils le disent et qu'ils sont écrits. Bon, hormis ça, s'il ne l'écrit pas, on ne peut pas se contenter simplement de dire on retire parce que finalement.
Donc c'est un deal en fait.
C'est un deal. Une médiation, c'est un deal.
S'il dit comme ça,
la transaction, voilà, j'ai cherché le mot. En termes de prud'homme, c'est la transaction.
On continue là, voilà.
C'est une transaction. Hein, en termes de prud'homme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un contentieux, et l'employeur et l'employé font une transaction. Donc c'est une transaction. Voilà. Et donc, ce que nous devons voir, c'est qu'est-ce que nous demandons en échange de l'arrêt des poursuites. Donc,
Yves, abandonner la raison.
On fait une médiation sous condition.
Sous condition, bien sûr. Ah oui. Ah oui, sous condition. Sinon,
c'est
pas une médiation. Mais non, c'est pas une médiation, sinon.
Sinon, c'est pas une médiation.
Oui.
Une médiation, c'est sous condition.
Oui.
C'est une tranche. Alors, écoutez, je crois que le mot.
Et s'il refuse.
Ah ben, s'il refuse, on continue l'action.
D'accord, on n'en parle plus, je vous accorde la salle. Mais je refuse de faire ce mot de justificatif.
Non, la salle, on l'avait déjà. Hein.
Oui.
Donc, la salle, on l'avait déjà. Donc, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous.
C'est pas dans la balance, la salle.
C'est pas dans la balance. Hein.
Je vais pas revenir sur mes propos.
À nous de décider de la suite après. On verra bien.
À nous de décider.
Non. La demande au maire, c'est d'abord de lui proposer la médiation. Ouais. On efface notre demande. On veut continuer notre activité de consultation citoyenne,
voilà.
Tout simplement, et de pouvoir étudier le fonctionnement communal.
Et puis, qu'ils veulent bien dire au Couchois que la fréquentation de cette assemblée
n'est pas une infraction,
elle est sans risque. Et elle est encouragée par la mairie, peut-être.
Voilà, c'est parce que pas. Alors, on peut demander.
Écoutez, de baisser sa culotte.
Non, on peut demander plus. On peut, c'est une transaction. C'est bon, on peut demander plus, et puis ensuite on se mettra d'accord sur un juste milieu. Hein, se mettra d'accord sur... Alors, il y a aussi une chose qu'on peut... Alors, effectivement, on peut lui dire que, réflexion faite, il s'engage à travailler en bonne entente avec la CEL. Bon, voilà. Il peut refuser de le dire. Voilà. On peut lui demander aussi de, finalement, donner une suite positive à la demande qu'on a faite d'avoir une salle hebdomadaire. Parce que voilà plus de 30 jours que la première demande a été faite, on en a envoyé 3 de suite, et vous savez que les usages, c'est que l'administration... Il ne faut pas dire l'administration ne répond pas, c'est interdit. Non, l'administration, si elle ne répond pas, ça veut dire qu'elle refuse. C'est ça. L'administration n'est pas obligée de vous répondre.
Pourtant, le dicton, c'est qu'il ne dit rien qu'on sent.
Là, c'est le contraire. Voilà. Bon, lorsqu'on fait une demande à l'administration et qu'au bout d'un mois, elle n'a pas répondu, ça veut dire qu'elle refuse. Bon. Donc, on a toujours en suspens aussi cette demande d'avoir la salle toutes les semaines. Alors, c'est pas dire qu'on ferait l'assemblée plénière toutes les semaines, mais on ferait des commissions, des choses comme ça. Bref, d'avoir cette salle toutes les semaines pour pouvoir y travailler nos débats, etc. Voilà. Et donc, on peut aussi lui demander, dans la corbeille de transactions, d'élargir le rythme bimensuel à un rythme hebdomadaire. Hein, voilà. Donc on peut demander ça. Après, ça je peux pas vous l'accorder, ça je peux pas vous l'accorder. Bon, on verra.
On discute.
On discutera.
Oui. Bon, non, mais ça veut dire une fois par semaine.
Toutes les semaines, tous les samedis. C'est quoi demander? Qu'on ait la salle tous les samedis à 14h30. On verra bien ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, là, on est enregistré. Bon, mais voilà, nos activités s'intensifient. On a beaucoup de choses à faire. On a besoin de la salle toutes les semaines. Voilà.
Alors, dans le courrier médiation, bon, je m'abstiens pas et je suis en accord avec le consensus. Mais il faut bien marquer que si effectivement dans la médiation il y a blocage ou quelque chose, bon, la procédure engagée, il faut bien...
Oui, le tribunal l'a écrit, ça. Hein. Le tribunal l'a écrit. Alors, dernier point avant de passer à l'autre, c'est que moi, je pense qu'il est important de mettre ou de ne pas mettre, il ne faut pas qu'on lui demande de donner ses raisons.
Non, je crois pas.
On n'en est pas là. C'est après, si on est dans la procédure contentieuse... Oui. Là oui. Bon, là on est dans une médiation. On demande s'il veut nous donner ses raisons. On n'exige pas qu'il nous donne les raisons
pour
les
raisons. Alors à ce moment-là, mettons s'il veut nous donner les explications, nous serons
gourmands. On met rien.
Je voudrais bien savoir.
Oui, moi aussi.
Je suis une nature curieuse.
Mais on saura.
Peut-être un peu trop.
On saura.
Mais j'ai envie de savoir quand même. Bon, pardonnez-moi. Oui, j'ai envie de savoir la raison profonde de tout ça.
Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais...
Je crois que non, mais ça a un certain intérêt quand même. Non, mais là, on est dans un...
Et donc, on aura des personnages
politiques, on est dans un deal, tu ne peux pas tout avoir.
Hein. Tu ne peux pas demander non plus au maire de te dire « J'ai pris cette décision parce que votre tête ne me revient pas. » C'est pas possible qu'il te réponde comme ça.
Ben peut-être.
Mais non.
Peut-être qu'il n'aura pas l'honnêteté.
Mais non.
Vous avez un rue qui a une sale gueule.
Mais non.
Donc, on peut pas. Non, c'est un peu vrai que tu as une sale gueule.
Il peut pas.
C'est pour détendre. C'est pour détendre l'atmosphère.
Il ne
peut pas répondre ça. C'est pas possible.
Toi, tu dis ça.
Mais c'est intéressant. Tant mieux.
Mais non.
Mais si.
Mais non, parce que.
Mais
non, parce que c'est pas parce que quand ta tête ne tourne pas.
Bon, est-ce qu'on clôt le sujet, on a pas mal d'autres points.
Au niveau médiation, effectivement, c'est un petit peu excessif de lui demander pourquoi, mais on pourrait trouver une formule lui disant, gentiment, s'il pouvait donner les raisons, peut-être qu'il a des raisons bien particulières de
nous. Oui, parce que c'est riche d'enseignement pour nous. Parce que
je crois. D'avoir pris peur des propos, je ne sais pas, il a pensé qu'on était. Subversif, qu'on était politisé dans un certain sens,
on allait faire une manif sans qu'elle soit autorisée.
Je crois que ce n'est éthiquement pas demandable. D'abord parce qu'il a le droit d'avoir les opinions qu'il a, hein, ça importe. Oui.
Mais
nous ne sommes pas un tribunal pour juger si ces motivations sont recevables ou pas.
Ça n'est qu'une médiation.
Donc on n'est pas un tribunal. Donc nous ne pourrons pas juger si
mais
oui ou
non. On n'est pas là pour le juger, on est juste là pour savoir.
Laisse
on peut dire éventuellement,
non.
Si vous voulez.
Moi, je suis d'accord avec
Écoutez, ne confondons pas, je crois que Jean-Pierre est d'accord, ne confondons pas l'action judiciaire et l'action de médiation.
Les deux.
Dans le judiciaire, oui, là on va exiger. Attendez, là, c'est un arrêté, c'est un arrêté de la République. Bon, il faut se justifier. Bon, là, médiation, ça veut dire on n'en parle plus. Voilà. Bon, donc médiation. Après, si Monsieur le Maire estime que dans le cas des médiations, il a intérêt à se justifier par rapport. Bon, c'est lui qui va le voir. Mais il ne faut pas que. C'est lui qui va le voir. Mais ce n'est pas à nous de mettre. Puisqu'on met des conditions. Hein? La médiation, c'est une condition. Nous, on fait ça, vous faites ça. Des transactions.
Dans une relation démocratique.
Donc, s'il y a cette médiation, s'il l'accepte, d'une certaine manière, c'est reconnaître notre existence et le bien fondé de ce que l'on fait.
Voilà. Oui, bon.
C'est implicite.
On tire. Oui, c'est implicite.
S'il reconnaît que.
Et puis qu'il nous facilite l'accès aux documents.
Alors. Alors, on passe. On passe au. On clôt pour l'instant ce point. Oui. Passe à autre chose. Oui. Alors, le point 2, c'est l'accès aux documents administratifs. Ah. Donc, nous avons. Engagé, nous le pensons, pour le bien de la population, un audit communal citoyen. C'est une décision qui date déjà de plusieurs mois. Et donc, on a commencé à demander un certain nombre de dossiers, de documents administratifs et comptables. Alors, nous avons commencé par demander les comptes rendus des conseils municipaux antérieurs à juillet 2018. Puisque les numérisations des comptes rendus des conseils municipaux sont mises en ligne pendant un an et ensuite elles sont archivées, elles sont, je ne sais pas exactement sous quel temps, mais elles sont archivées. Bien. Et donc, nous avons demandé à consulter, puisque nous avons en notre possession les comptes rendus des conseils municipaux des 12 mois précédents, mais nous avons demandé à consulter les cinq premières années en fait du sexennat. Et nous avons reçu une lettre commandée, enfin, on n'a pas reçu sept, enfin, on commence à en avoir reçu pas mal quand même. Bref. Voilà, alors, consultation de documents administratifs de la commune. Je vous informe que vos demandes de consultation de documents administratifs et comptables de la commune ont été transmises à la CADA pour avis. Sans réponse de leur part, je ne suis pas en mesure de donner une suite favorable à votre proposition de consultation du 6 novembre prochain. Parce que nous lui avions écrit qu'on viendrait se présenter le 6 novembre pour consulter les PV du Conseil municipal 2017, 2016, 2014. Bref, voilà. Bon, alors, c'est quand même savoureux. Je ne sais pas ce que vous pensez. Bon,
c'est quand même pas la lune que de lire le PV du Conseil municipal. Mon Dieu.
Monsieur le maire refuse, pour l'instant, il va demander s'il a le droit de le faire. Il va demander s'il a le droit de nous laisser consulter les CR des conseils municipaux. À la CADA. Alors,
c'est un échappatoire.
Oui, non, mais c'est un peu. C'est, enfin, bon, enfin, bref, on ne parle pas. Toujours est-il que la CADA dit, elle, que si un maire fait ça, enfin, si un maire fait ça, c'est-à-dire que, en fait, il joue à l'idiot, entre guillemets, il n'est pas idiot, mais il joue à l'idiot, ah ben, je ne suis pas au courant, je ne sais pas si j'ai le droit. Les conseils municipaux, les PV, je ne sais pas si j'ai le droit, faut que je demande. Bon, donc il fait l'idiot. Et la CADA dit quand c'est comme ça, c'est comme s'il refusait. Bon. Donc nous avons, de même que pour là, et au titre de l'association des citoyens, on a fait un recours à la CADA pour pour... Alors, là, on ne peut pas saisir, dans le cas de rétention de documents administratifs, on ne peut pas saisir directement le tribunal administratif. Il faut d'abord passer par la CADA. La CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, qui filtre d'abord et qui dit oui, c'est vrai que l'administration concernée est bien obligée de vous donner ces documents, oui, c'est vrai, vous pouvez y aller au tribunal administratif. Bon, c'est un petit peu normal parce que n'importe qui peut demander des documents, n'importe lesquels. Bon, donc, bon ça, de toute façon, il n'y a pas, je pense, de soucis là-dessus. Donc, tout simplement, nous attendons que la CADA nous dise oui, un maire est bien obligé de fournir les. Compte rendu des conseils d'administration des années précédentes. Nous attendons que la CADA nous dise ça pour pouvoir retourner auprès de monsieur le maire pour lui dire, vous voyez, la CADA a dit que vous deviez nous les donner, donc il faut que vous nous les donniez. Voilà. Bon, c'est vraiment un jeu un peu
enfin, c'est
regrettable.
C'est un jeu, oui, c'est même lamentable.
Oui,
c'est,
j'ai dit regrettable et pas lamentable.
Dans la relation démocratique. Et je veux dire, c'est là, je me sens un peu plus démocrate que... Mais là, je suis le demandeur, c'est normal.
Alors, ce qui est... Bon, sans faire d'interprétation, on peut en faire beaucoup. Ce qui est clair, en tout cas factuel, c'est que M. le maire repousse autant qu'il peut l'échéance, qui de toute façon est inéluctable. Il repousse tant qu'il peut.
Alors, il peut pendant combien de temps pousser ?
C'est une des bonnes questions parce que la CADA, par contre, ne fonctionne pas comme le tribunal administratif. Hein. La CADA, j'ai l'impression qu'ils sont pas pressés.
Ils sont pas pressés.
Ils sont pas pressés.
De répondre ?
Non. Autant le tribunal administratif, j'ai été même stupéfait de voir la rapidité de l'instruction des dossiers, parce que ça fait tout par Internet. Là, la CADA. Par Internet, ils n'envoient même pas de récépissé de la demande. J'ai même écrit directement à contact.cada.fr pour dire « Vous avez envoyé un truc, vous l'avez bien reçu, là, vous pouvez me... » Rien. Bon. Donc, voyant ça, et pour être sûr quand même de votre coup, je vais envoyer carrément des documents par écrit à la CADA, on va bien voir s'ils en accusent réception. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le même genre de cheval que le tribunal administratif, la CADA. Alors, est-ce qu'ils sont submergés de je ne sais pas. En tout cas, ouais, ça va. Mais c'est le genre, effectivement, d'affaire, et peut-être que M. le maire le sait, hein, peut-être que d'ici 2 mois, on ne va pas avoir de réponse, la CADA. Alors, inutile de vous dire que on va bouger, téléphoner, si je vois que ça ne vient pas, il y a comme un numéro de téléphone, on va essayer d'avoir, bon, vous nous répondez. Voilà.
Il dépend de qui, la CADA ?
C'est une bonne question. Ben, la CADA,
une commission d'accès aux documents administratifs sous l'égide de la République.
Oui, c'est, donc, c'est l'État. C'est l'État.
La République française, c'est l'État.
Il faut, si on n'a pas de garantie, si au bout de, je ne sais pas, on mettrait un mois... avec toujours pas de réponse, eh bien, on demande aux députés, on demande
à
la région. Bon,
là, on va quand même attendre.
On fait un préfet, on fait un courrier particulier pour que cette instance ne fasse pas blocage. Quoi.
Alors, en termes de...
Ils dorment tous dans leur bureau, ou je ne sais pas.
De date précise, la demande à la CADA a dû être faite il y a... je pense que j'ai dû faire ça le lundi ou mardi, donc c'est quand même très... récent. Hein. Voilà. Mais à suivre, à voir si rien ne vient. Mettons, si d'ici 15 jours, enfin 15 jours à dater, c'est-à-dire fin de semaine prochaine, il n'y a rien qui vient de la CADA, ni même un accusé de réception, nous avons bien reçu votre dossier, est en cours d'instruction, parce que le tribunal administratif, et c'est presque tous les 2 jours, il nous dit, oh, ben, tiens, c'est une instruction, hop, il est passé au bureau, machin. C'est formidable, hein, ce télé-recours, c'est génial. Hein. Bon. La CADA, rien du tout. Donc, si rien ne vient, ben on va bouger. Il y a une adresse, un numéro de téléphone. Et puis, nous voyons M. Reberotte vendredi. Alors.
Vendredi, jeudi.
Vendredi.
Oui,
vendredi 15.
Oui, vendredi 15. C'est marqué vendredi 15.
Oui,
voilà. Alors. Je posais la question, si vous voulez, si quelqu'un veut, qui veut venir au rendez-vous de Revérotte? C'est à Le Creusot. À 14h, boulevard Maréchal Foch, là,
à la permanence.
Un peu avant la place Schneider.
Gauche en montant.
Bon, on se reboucle là pour savoir qui y va. Voilà. Bien, bref. Alors, donc voilà, on attend. Oui, bon, personnellement, je trouve quand même que là, c'est un peu fort de café, quand même. Hein. Faire semblant de ne pas savoir. Enfin. Faire croire qu'il ne sait pas s'il a le droit de communiquer les comptes rendus des conseils municipaux, je trouve que c'est quand même.
Non, mais c'est simplement, la CADAB a vérifié quoi? Si c'est pas secret défense,
mais
si c'est pas un truc. Mais les PV, je veux dire.
La CADAB va rien vérifier du tout. Le conseil.
La transparence de l'action administrative, c'est une loi du 17 juillet 1989, l'article 78-753. Il y a obligation,
obligation,
pose le principe du droit de chacun.
Mmh. Oui, non, mais sur le, monsieur le maire ne conteste pas la loi 21-22 qui dit que. Il dit qu'il ne sait pas si ce type de document,
oui,
il peut le fournir.
Il se fout de.
C'est un peu ça quand même.
C'est se foutre de la gueule du monde, comme on dit. Mais bon, c'est sa stratégie, je veux dire. Maintenant, pourquoi une telle stratégie
il se retarde. Je pense que c'est retarder le plus possible, quoi.
Mais
mettre des bâtons dans les roues. Alors,
pourquoi mettre des bâtons dans les roues?
Parce que quand on retarde, on peut toujours espérer que la personne va se lasser. Ben, oui. T'as compris?
Oui.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui, je sais. Voilà.
c'est connu.
Oui, mais moi. Moi, c'est pas dans mon caractère.
Mais non, mais...
Moi, c'est la mort qui me fait arrêter.
Mais c'est pas qui. C'est pas qui a affaire à toi. Il pense peut-être qu'il a affaire à des gens qui vont se lasser. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bref, voilà. Ça, c'est pour moi des choses à dire là-dessus. Bon. Alors. Ensuite, on doit parler de l'audit citoyen communal, puisque en fait on est dans le sujet, dans la mesure où cet audit ne peut pas commencer, dans la mesure où il y a une rétention de documents. Il peut toutefois commencer parce que nous avons quand même les comptes rendus depuis juillet 2018. Voilà. Donc on peut déjà commencer à travailler. Alors, cet audit citoyen communal auquel on a accolé l'acronyme ACC, qui, résonne un petit peu avec l'acronyme ACL, Assemblée Citoyenne Locale, c'est quelque chose dont on commence à parler dans les différentes assemblées citoyennes locales. Et donc, à ce titre, j'ai commencé à rédiger, enfin, j'ai rédigé un texte que je me suis fait passer par la Framaliste. Alors, il faut qu'on parle de la Framaliste. Il a été demandé par les différentes assemblées citoyennes locales qui se montent ici et là en France qu'on puisse connecter, enfin au moins communiquer entre nous. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on avait créé ce site il y a quelque temps qui s'appelle assemblée-citoyenne-locale.org. Mais tout le monde ne va pas tout le temps consulter le site. Et puis on demande aux assemblées aussi de nous envoyer des infos, leur compte rendu. Donc Couche met ses comptes rendus, Villeurbanne met ses comptes rendus, Saint-Calme-Guildo met ses comptes rendus, etc. etc. Toulouse est en train de se constituer. Et donc cette framaliste permet d'envoyer des infos et puis de bien montrer qu'il y a une plateforme qui permet de faire partager à tout le monde les expériences des uns et des autres. Et donc, cette affaire d'audit citoyen communal, il est au centre actuellement de la réflexion sur les assemblées citoyennes locales qui s'est tenue, enfin, disons, à Montpellier, à l'ADA, etc. Donc, parce que les assemblées citoyennes locales, elle se constitue, et puis après les gens disent, mais qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais vous lire ce texte qui est largement élargi par rapport à la première mouture que je vous ai envoyée. Pourquoi créer une assemblée citoyenne locale ? Quel doit être son rôle ? Une ACL est-elle simplement un lieu de débat sur des thèmes généraux, de niveau national ou international ? Doit-elle au contraire s'intéresser prioritairement aux affaires locales ? Et si oui, de quelle façon et avec quels outils ? Ces questions sont centrales et, faute d'y répondre de façon claire et précise, leur mise en suspens constitue généralement un frein à la création d'une ACL, voire la cause d'une fin prématurée de son fonctionnement peu après son démarrage. L'objection la plus fréquemment opposée, et on l'a encore vu lors d'une réunion à Villeurbanne la semaine dernière, l'objection la plus fréquemment opposée à la création d'une ACL est celle-ci. Il est difficile de mobiliser des gens en ayant comme seule proposition que de les inviter à discuter dans des assemblées qui n'ont pas de pouvoir réel. Cette objection vise naturellement les ACL qui se sont fixées comme vocation de débattre de thèmes nationaux d'essence très politique, tels que par exemple, alors là on cite le dividende universel, la consommation responsable, le RIC, ou plus globalement, quel type de société voulons-nous ? Parce qu'un certain nombre d'assemblées se constituent sur en fait cet objectif, c'est on va débattre de grands thèmes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait nous ici, dans le cadre de débats citoyens, où on parlait de grands thèmes. On n'avait pas cette vocation d'assemblée citoyenne locale. Voilà, mais cette objection perd singulièrement de sa force si nous considérons au contraire que la mission initiale d'une ACL, c'est de s'occuper de la gestion locale, et que son influence sur les thèmes généraux, et par voie de conséquence sur les revendications sociales et politiques globales, ne pourra se concrétiser que dans un deuxième temps, éventuellement, après qu'un nombre significatif d'ACL, d'abord, ont été installés sur le territoire national, et ensuite qu'elles se seront instituées en un réseau coordonné avec un outil central à déterminer et à construire, destiné à gérer les flux centripètes et centrifuges d'informations particulières. Bon, donc ça, c'est vraiment le deuxième niveau. On est encore loin. Bon. Il convient donc de mettre les pieds sur terre, et dans cette phase très difficile qui consiste à faire émerger à partir de rien une instance collective manquant encore de références historiques confirmées, de références historiques confirmées, ou bien dit autrement de créer ex nihilo quelque chose qui n'a encore jamais réellement existé. C'est ce qu'on fait, en fait. Et donc de fixer à une jeune ACL naissante, convient de fixer à une jeune ACL naissante, compte tenu de cette difficulté de référence, une tâche concrète, claire et précise, visant à un résultat objectivement mesurable. Cette tâche concrète, nous le pensons, c'est l'audit communal citoyen. Donc, confier une tâche claire et concrète est une tâche qui vise à un résultat objectivement mesurable. La tâche, c'est l'audit, et le résultat, c'est peser sur le pouvoir local, et dans le cadre particulier des élections municipales de 2020, peser éventuellement sur des listes candidates sans se préoccuper de leur couleur politique affichée. Alors, une sous-objection est alors prévisible au regard de cette stratégie proposée. C'est celle-ci. Pourquoi perdre son temps à fouiller dans la gestion locale alors que le vrai pouvoir, c'est de décider de nos conditions de vie, le vrai pouvoir de décider de nos conditions de vie se trouve à Paris, au palais de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on va bien faire dans, disons, le contrôle des actions locales? Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens dans les mouvements alternatifs se désintéressent des élections municipales. Ce raisonnement est une grave erreur. C'est une grave erreur, car il ne faut pas oublier que les conditions de vie du citoyen sont rythmées en grande partie par la fiscalité locale, et que le pouvoir local exerce une pression très importante sur notre niveau de vie par le biais des impôts locaux tels que taxes foncières, taxes d'habitation, même réformées, taxes professionnelles, même éclatées en CET, CEV et CRVE, CVAE, pardon, et taxes diverses, ordures, énergie, etc. Pression qui fait que nombre de citoyens payent d'ailleurs plus d'impôts locaux que d'États centraux, sans même s'en rendre compte et sans même savoir que les impôts locaux sont décidés localement, ou que c'est des impôts locaux. que la taxe foncière, que la taxe d'habitation, que la CVAE sont des impôts locaux, décidés par le pouvoir local. De plus, le pouvoir local est souverain pour tout ce qui concerne l'accès à la gestion des services publics de proximité, qui sont des éléments clés et constitutifs des conditions de vie des habitants de la cité. Il en résulte qu'à l'évidence, un bon nombre de facteurs constitutifs du niveau de vie du citoyen ordinaire sont conditionnés par les décisions du pouvoir local, et que influer sur elles, c'est-à-dire les décisions du pouvoir local, c'est influer directement sur la vie quotidienne des citoyens. Donc il faut s'intéresser au pouvoir local. Dans ces conditions, nous voyons donc bien se profiler tout l'intérêt pour le citoyen de base d'être proactif dans le processus d'audit communal citoyen, sachant que cet audit va se donner le double objectif, d'une part, d'inciter à la baisse des prélèvements obligatoires pesant sur chaque citoyen, et d'autre part, de revendiquer une optimisation des services publics gratuits locaux. Ce double objectif étant, nous le voyons bien, de nature à améliorer les conditions de vie du citoyen, souhait naturel de ce dernier, et souhait par ailleurs tout à fait compatible avec les missions d'une municipalité telles qu'elles sont énoncées dans le Code des collectivités territoriales. Dès lors, face à l'argumentation probable du pouvoir local, qui sera de soutenir qu'il ne peut pas et baisser les impôts et augmenter les services publics gratuits, la réponse de l'Assemblée citoyenne doit être de lui signifier que sa mission réside précisément dans cette obligation de résultat dual, et qu'il sera jugé par les électeurs sur sa capacité à y parvenir. Cette démarche, qui est nouvelle, inverse le rapport pouvoir local administré, dans la mesure où l'introduction de la notion d'obligation de résultat prend le pas sur celle d'obligation de moyens. Cette dernière, l'obligation de moyens, résumée très souvent en termes triviaux, équivalent à se contenter de dépenser le budget issu des prélèvements obligatoires, sans se préoccuper d'évaluer objectivement les satisfactions populaires qui en résultent. Ainsi, nous commençons à voir poindre une grille de notation de l'action communale. La meilleure note étant attribuée à l'équipe qui parviendra le plus à diminuer les impôts tout en augmentant le plus l'offre de services publics gratuits. Ce double objectif ne pouvant naturellement être atteint qu'en réduisant certaines charges non directement engagées dans cette perspective spécifique. Et c'est principalement sur cette capacité de gestionnaire avisé que doit être jugée l'action d'une équipe municipale. Un mot doit être dit au passage sur la notion de service public gratuit qui est employée ici. Et convient de citer très fortement sur l'épithète gratuit. En effet, le citoyen ne doit pas être abusé par les faux services publics qui pullulent fâcheusement, tendant à dénaturer le concept originel de service public. De ce point de vue, l'audit citoyen communal devra être particulièrement attentif à dénoncer les sous-traitances de services de type régie municipale visant à faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire à proposer des services dits publics mais payants, parce que délégués via des contrats de gérance à des sociétés privées.
Formidable.
Qu'on va élargir aussi au niveau national. L'Assemblée citoyenne de Couche a donc décidé d'entreprendre un audit de l'action communale par sa résolution numéro 7 du 10 août 2019, cette résolution se situant dans le prolongement de la motion numéro 5 sur le constitutionnel de l'Assemblée citoyenne. En effet, la Constitution française stipule, ça je pense que vous l'avez lu, que tous les citoyens ont le droit de suivre par eux-mêmes l'emploi des contributions publiques, article 14 de la DDHC. Droit inaliénable qui fonde l'une des missions de l'Assemblée citoyenne, se traduisant au niveau local par le souci de veiller au bon emploi par les municipalités, mais aussi la communauté de communes, département, la région, des impôts locaux que payent les citoyens. C'est ainsi que l'Assemblée citoyenne locale est fondée à lancer une alerte chaque fois qu'elle s'interroge sur une utilisation des finances publiques possiblement non engagées dans l'intérêt général, ou bien décidée sans qu'une étude préalable suffisante ait été engagée pour en garantir un bénéfice tangible et durable pour la collectivité. Cette alerte peut se concrétiser par une communication à l'adresse de l'instance concernée sous forme, selon le cas, de nos fameux questionnements, critiques argumentées, suggestions. Mais l'Assemblée citoyenne est également fondée à prendre des initiatives en dehors de toute contingence. et notamment d'engager des enquêtes publiques citoyennes sur tout sujet qu'elle juge d'importance. C'est ce que font notamment des assemblées citoyennes à Lyon, Villeurbanne, hein, dans le cadre des municipales, ils déclenchent des enquêtes publiques. Voilà. Et puis ils disent, voilà, nous, on a obtenu tel diagnostic, et donc on va fonder le programme de notre liste sur tel diagnostic. La procédure d'audit communal citoyen, initiée par l'ACL, entre dans ce type d'action, tout en témoignant, c'est-à-dire en dehors de toute contingence, tout en témoignant d'une perspective accrue par la proximité, naturellement, des élections municipales de 2020. C'est ainsi que l'audit citoyen communal doit permettre, en livrant un diagnostic citoyen détaché de toute préoccupation partisane et indépendant de toute liste candidate, d'éclairer les électeurs dans son choix pour les chances municipales de mars 2020, en proposant un bilan argumenté et factuellement étayé de l'action sexennale de la municipalité sortante. Ce bilan, pour être objectif, ne peut naturellement pas émaner de l'équipe sortante, ni de telle ou telle équipe candidate. Il ne peut être issu que d'une instance neutre d'un point de vue politique, c'est-à-dire de celle des citoyens librement assemblés. Cet audit de l'action communale doit débuter par une analyse détaillée des comptes rendus des conseils municipaux. Donc là, on reprend. Hein, voilà, elle doit porter sur. Voilà. Non. Après, ça reprend les quatre commissions. Alors, démocratie, c'est évaluation des procédures de concertation avec la population lors des prises de décision. Avec, oui, alors, d'un point de vue général, l'audit citoyen communal vise à faire un bilan et évaluer sur une échelle de 0 à 5. Il y a bien des agences de notation, des États, de la France qui est noté AAAAA. Bon, pourquoi nous, on ne noterait pas une équipe municipale de 0 à 5. La performance, notez la performance de la commune dans quatre domaines. Alors, quatre domaines, il peut y avoir d'autres. Démocratie, évaluation des procédures de concertation avec la population lors des prises de décision locales, de 0 à 5. Non, Jean-Louis, ne donne pas ta note tout de suite. Voilà. Finance. Évaluation de l'utilisation des finances publiques dans la limite des domaines dévolus au pouvoir municipal et en considérant la priorité de l'intérêt collectif et la nécessité d'optimiser la pression fiscale, etc. C'est ce qu'on a dit. Économie, évaluer les stratégies et les moyens mis en œuvre dans le cadre du développement du commerce et de l'artisanat de l'industrie locale. Culture et patrimoine, évaluation des stratégies et des moyens mis en œuvre pour la valorisation du patrimoine historique et culturel de la ville afin de dynamiser son activité économique et touristique. Donc ce travail, ça vise en fait à fournir une grille d'audit qu'on va pouvoir proposer à toutes les ACL qui veulent faire ce boulot.
On peut, c'est formidable, formidable. C'est le sujet, on est au cœur du réacteur là. Le point supplémentaire, c'est de dire aussi. Système de scoring de l'État, mais aussi système de scoring pour, alors, sans être partisan, sur les points économiques, démocratiques, etc., sur les programmes des listes
oui.
qui vont arriver.
Ah oui, l'audit des listes. Oui.
L'audit des listes, c'est-à-dire qu'à partir des critères qu'on va, non pas figer, mais qui, par rapport au ton actuel et aux contraintes de notre époque, de maintenant, quoi, de ce jour fixé, enfin, on a une idée globale, et il faut la projeter dans les 6 ans qui viennent, et puis dire, ben, oui, mais l'application de tel programme, il prévoit, par exemple, investissement ça, on peut estimer, nous, par l'étude du marché, que... pour investir par exemple dans une piscine à couche, on s'apercevra que le taux de fréquentation de la piscine, ben, c'est peut-être que 3 personnes par jour, etc. Et que la rentabilité, voilà, tu comprends. Alors ça fait bien dans un programme de dire on va faire une piscine, mais en fait, d'un point de vue économique, c'est pas. Donc ça dimensionne le projet d'une façon différente, puisqu'il n'y a que 3 personnes qui viendraient. Mais il faut arriver à se projeter aussi, personne n'est demain, personne ne dit ce qui va se passer à l'échéance de 6 ans, c'est sûr. D'autant plus qu'on a beaucoup des problèmes nationaux et mondiaux qui vont intervenir, impacter tous nos réflexions. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous aussi, on peut s'autoriser on peut s'autoriser à évaluer les programmes des listes en cours. À Villeurbanne, par exemple, si le maire aux lunettes vertes a un programme, bon, il n'en a pas, mais...
Il s'en va, il ne se représente pas.
Il se représente, mais son copain qui se représente à sa place, lui, il a un programme. Il va dire, bah, moi je vais faire ça, puis moi je vais faire ça, puis vous allez voir, ben, les promesses. On va évaluer les promesses, on va voir si elles sont faisables, voir si elles ne sont pas faisables. Enfin, c'est aussi un point à dire qu'il faut aussi se projeter dans l'avenir. Néanmoins, là on fait du constat du passé et du présent, mais la projection dans l'avenir, la trajectoire que ça prend, a forcément un impact sur notre vie de demain. Ben bon, c'est voilà, parce que je l'ai pas ressenti dans le truc, c'est pour ça que je le dis, mais c'est formidable là, ce qui est mis en machin là. Il faudra l'avoir le texte parce que
Le texte, de toute façon, il va tourner, il part en modif sur tous les framalistes France. Hein. Mais oui, pardon. Oui.
Moi, j'ai un souci, c'est que le terme d'audit, je comprends pas bien ce que ça signifie. Audition, ça dérive d'audition. C'est un bilan, c'est...
Audit, c'est un terme d'entreprise.
Pourtant, c'est un terme qui devient courant, mais...
Oui, c'est un terme d'entreprise, il y a des cabinets d'audit, hein, il y a des grilles d'audit.
C'est l'état des lieux.
Oui, alors, c'est plus que l'état des lieux, ça porte un jugement, ça note. Bon, l'audit passe au crible, hein, c'est un scanner... économique. Hein. Quand on passe un scanner, c'est un audit de ton corps.
De la santé.
Voilà. Bon. Et donc, il s'agit d'étudier tous les rouages constitutifs d'une organisation, de faire l'analyse défectuologique. Hein. Et puis, alors, l'audit ne propose pas de solution. Hein. L'audit met le point sur les dysfonctionnements. Et il met le point sur les dysfonctionnements en fonction aussi d'un standard. De la façon dont ça devrait fonctionner. Alors, moi, je voudrais revenir sur... J'ai dit un peu rapidement oui, quand tu as dit audit des listes. Non, c'est pas... on ne peut pas parler d'audit. Un audit se fait sur quelque chose d'existant. On ne fait pas un audit sur un programme. Oui. Un audit, c'est... On prend une certaine période, une entité donnée, et on la passe au scanner. Vis-à-vis des listes, c'est autre chose. On ne peut pas dupliquer, à mon avis, on ne peut pas dupliquer la procédure d'audit qu'on va faire sur les 6 ans, sur l'action communale qui s'est déroulée pendant 6 ans avec cette équipe-là. On ne peut pas dupliquer ce dispositif sur le travail qu'on peut faire sur les listes candidats, c'est un travail différent dont il n'est pas question ici, pour l'instant. Enfin.
Mais c'est pour ça que j'ai parlé de l'exemple d'une piscine. Quelqu'un qui veut mettre, il veut 500 000 euros pour la commune, pour une piscine, donc il va augmenter les impôts, il va faire ci, il va faire ça, comment, en quel temps il va l'amortir, on peut quand même évaluer l'impact que ça aura, les 500 000 euros, sur la vie, sur les budgets de la commune.
Jean-Pierre veut s'exprimer.
L'audit des candidats, chaque citoyen le fera individuellement, avec le petit programme, une feuille, deux feuilles, que nous allons tous recevoir.
Profession de foi.
Profession de foi. Et chacun l'a fait. C'est le principe démocratique.
C'est autre chose.
L'Assemblée citoyenne peut la faire aussi. On peut arriver à un consensus.
On
ne
peut pas les savoir suffisamment en avance.
Alors, je sais pas.
On est limite parce qu'on soutient peut-être et après on dit vous êtes partisan parce que c'est sûr que après on parle, c'est pas palpable parce que c'est pas quantifiable, c'est des projets.
Alors c'est important ce que tu dis.
Mais un projet fou, on peut s'autoriser à le dénoncer.
Alors bon, c'est un débat. Moi je dirais non, mais bon.
Qui a refusé le chemin de fer parce que c'était un projet fou.
Oui, c'est vrai. Non, mais ça mérite d'être médité, tout ça.
Ça mérite d'être médité, d'autant plus que certaines assemblées confondent leur rôle. Tout du moins, sont pas dans leur rôle. Elles sont dans un rôle, on va prendre parti pour un candidat, donc ça devient un comité de campagne. Depuis le début, c'est 6 mois qu'on dit, on n'est pas un comité de campagne. Donc on n'est pas là pour dire, il me semble, il faut qu'on reste neutre et qu'on reste... disons, analytique. On n'est pas pour dire lui, ça nous paraît bien, lui, ça nous paraît pas bien.
Non, mais c'est, non, c'est pas lui ou lui, c'est le programme, c'est le programme avec un investissement. Alors que la commune fait des, un global d'investissement, par exemple, de 200 ou 300 000 euros par an, d'un seul coup, il y en a un qui dit : moi, je vais construire la piscine olympique à Couches, elle coûte 1 500 000. Bon, on peut s'autoriser à dire que c'est
Mais si les citoyens votent pour lui,
ça n'est rien. Il vaut mieux informer les citoyens sur le budget de la commune et de savoir ce qu'une commune dépense dans l'année. S'ils s'aperçoivent que le projet dépense 10 fois plus que le budget habituel, ils sont peut-être assez malins pour
le dire. Est-ce que le rôle.
Je vais faire mon sieyès, mais est-ce que les gens vont faire le rapprochement entre le budget moyen et le budget d'investissement du nouveau?
Alors, la référence à sieyès est intéressante. Oui. Sieyès, c'était en 1789, septembre 89, où il a dit le citoyen de base n'est pas assez intelligent, il a pas le temps. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Ben nous, on est là pour faire de l'anti-CIS, justement, pour dire non, attendez. Non. Ça, c'était le 9 septembre 1789. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et le citoyen, c'est plus le même. Donc, il est capable de faire certaines choses que, à l'époque, soi-disant, il n'était pas capable de faire. Ça, c'est. Bon. Voilà. Mais je crois que l'Assemblée citoyenne doit. Elle peut prendre tous les rôles. Il faut qu'elle se donne un rôle. Son rôle, c'est d'être un contrôle permanent de l'équipe en place. Hein? D'être une sentinelle de la démocratie, mais d'être aussi un contrôleur financier et d'être un conseiller culturel. Voilà. Bon. Elle fait. En quelque sorte de la shadow politique, hein, la politique miroir, hein, on va prendre en terme français, c'est le conseil municipal miroir, voilà. Après, bon, dans le cadre de l'élection, il me semble qu'elle n'a pas à intervenir autrement que d'interpeller les listes en leur disant qu'est-ce que vous comptez faire avec l'Assemblée citoyenne.
Oui, c'est juste.
Vous comptez la prendre. Ben c'est tout. C'est une question de principe. On est sur les principes. On n'est pas sur les.
Non, mais est-ce qu'on parlait de notation?
Mais alors, on va noter ce qui existe.
Ce qui existe.
Bah, ce qui a été fait.
On va noter ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait.
Voilà. Sinon.
On a fait le business plan pour parler entreprise. Le business plan du programme du candidat X. Je veux dire, il peut être jugé comme un banquier juge le business plan pour un prêt financier.
Oui, il peut, mais c'est pas notre boulot.
C'est pas notre boulot.
Parce que.
Oui. Non, mais je comprends la limite. Mais elle est tellement.
Non, mais il faut. Non, parce que
je m'autorise bien.
Le concept ACL qui est tellement nouveau et puis, oui. qui se superpose et qui se confusionne avec d'autres concepts, notamment dans le cadre des municipales, la difficulté qu'il y a à faire comprendre la différence qu'il y a entre une assemblée citoyenne et une liste,
c'est.
Tu le sais très bien.
Oui.
C'est un casse-tête. Bon. Donc. C'est pour ça qu'on est amené à recentrer, dire écoutez, une ACL, c'est ça, elle fait ça, et pas autre chose, elle fait ça. Sinon, elle peut tout faire, oui, elle peut tout faire, elle peut être un comité de campagne, elle peut stigmatiser des tas de choses.
Et puis, elle est quand même amenée, l'Assemblée citoyenne, à travailler avec la future municipalité, quelle qu'elle soit.
Absolument.
Donc, il ne s'agit pas avant l'élection de dire qu'un tel c'est bien et l'autre c'est pas bien. Alors, on va travailler avec ceux qui seront élus.
Surtout pour cette raison.
Oui. Là, il y a une expression que tu bafoues qui est prévenir c'est guérir.
Mais non, là non, c'est
non,
pas
non, prévenir.
C'est-à-dire que là en fait, là il faut.
Mais prévenir c'est être malade. Ça veut dire que la science infuse.
Donc c'est être malade et soigner après.
Mais non, mais écoute, jusqu'à présent.
Ça veut dire que tu sais à l'avance ce qui va marcher ou pas.
Mais jusqu'à présent, il y a quand même un maire et un conseil municipal qui décide de ce qu'il fait dans la commune. Ça ne va pas changer, ça.
Ça
ne changera pas. Ce qui peut éventuellement changer, c'est qu'il se rapproche des citoyens à travers l'Assemblée citoyenne locale. À qui il peut demander des éclairages, on peut discuter, on peut parler.
Alors, on a des exemples, quelques exemples. On a la municipalité de Saillant, S-A-I-2-L-A-N-S, dans la Drôme, où la municipalité travaille avec une assemblée citoyenne. Mmh. Elle prend la tâche de l'assemblée citoyenne pour toutes les décisions importantes, à partir d'un certain montant engagé, un montant financier. Elle ne le fait pas si l'assemblée citoyenne. Voilà. Bon. Et puis, alors, à vérifier.
Aussi, tu m'as parlé.
Oui, alors, à Saint-Pierre-de-Frugy, dans le 24, dans la Dordogne, on a un maire carrément qui considère la CL comme son conseil municipal. C'est-à-dire qui ne fait que ce que dit la CL.
Saint-Pierre-de-Frugy.
Frugy. Saint-Pierre-de-Frugy.
Frugy.
Ouais.
F-R-U.
F-R-U-G-Y. Voilà, c'est une info qu'il faut vérifier, mais en tout cas, l'idée bah, correspond, je dirais, à l'idéal.
Faut qu'on organise un voyage à Saint-Pierre de.
Sur l'Agora, tous les citoyens étaient présents. Citoyens. Il n'y avait pas de citoyens.
Ni d'esclaves, ni de gens qui
payaient. Tu nous parles de la République grecque, là ?
Oui, à Athènes, quoi, donc sur l'Agora, donc, la place publique, et le vote est obligatoire, puisque celui qui n'allait pas à la réunion de la cité,
la
réunion plénière, la police y allait au fouet.
Très bonne idée. Pour faire avancer la démocratie, la relation démocratique.
La police, c'était des. Des itis, des noms grecs.
En tout cas, il n'est pas concevable qu'une assemblée citoyenne locale puisse travailler, avoir des résultats, s'il ne travaille pas au moins un peu avec la mairie. Enfin, c'est pas forcément collé, c'est pareil. Mais une des premières tâches, c'est quand même d'essayer de construire ça, quand même.
Oui.
Mais je dirais que la première tâche, c'est d'être le reflet au mieux de la population.
Ah, compliqué, ça.
Ah non ? Non, c'est parce que... Bon, là, aujourd'hui, on est 6. Mais... Ce qui... Je veux dire... ce que l'on dit, bon... Ça semble juste, mais est-ce que c'est le vœu aussi de tout le monde ?
Sûrement pas. On serait bien prétentieux de penser que c'est le vœu de tout le monde, quand même.
Alors,
non, mais est-ce qu'on arrivera à réunir un consensus ?
Alors, ça, c'est...
Parce que ça, c'est... Parce qu'après, vous savez, le truc, c'est que l'Assemblée citoyenne devrait faire des discours citoyens aussi, c'est-à-dire...
Du prosélytisme.
Il faut que la voix porte pour attendre le retour. Il faut envoyer la balle pour qu'elle revienne. Mm-hmm. Aussi. Et il faut que la vox populi puisse aussi, on puisse avoir un écho, avoir des sons.
Alors, tu poses la question de la représentativité de la CL. Il y a, à mon sens, il y a deux choses. Il y a le principe et la réalité. Le principe, c'est que, on peut dire, elle est représentative parce qu'elle est ouverte et tout le monde peut venir.
Exact.
Ceux qui ne viennent pas, c'est leur problème.
Oui, c'est comme ceux qui ne viennent pas.
On leur dit, à partir du moment où le principe est posé ainsi, on dit, voilà, il y a une salle à tel endroit, à telle heure, tous les jours, toutes les semaines, enfin, bref, intervient régulier. Là-dedans, des gens se réunissent et ils sortent des préconisations qui sont ensuite un peu écoutées par la mairie. Bon, vous pouvez, si vous venez, faire entendre. Et donc, c'est des décisions qui sont prises de façon démocratique avec une majorité, c'est pas une minorité qui s'impose. Donc, les gens qui ne viennent pas et qui ont bien l'information et en conscience que les préconisations de l'Assemblée vont être prises en compte d'une certaine façon, plus ou moins importantes, ou plus ou très importantes, ou moyennement importantes, ou pas, pour de tout, en tout cas pris un peu en considération par le conseil municipal, que les décisions de l'Assemblée, les préconisations de l'Assemblée vont pouvoir influer d'une certaine façon sur les municipaux, et qu'ils ne viennent pas, bon, C'est leur problème. Bon. Après, la réalité. Donc ça, c'est le principe. On pourrait s'en tenir à ce principe-là en disant, écoutez, voilà, nous avons l'outil, vous ne l'utilisez pas. Si vous ne l'utilisez pas, c'est votre problème. Et donc, il y a aussi, d'un point de vue des usages républicains, l'idée selon laquelle celui qui ne va pas voter, il donne implicitement son pouvoir, même si ce n'est pas écrit et ce n'est pas signé, il donne implicitement le pouvoir à celui qui va voter. Ce qui fait que celui qui ne vient pas à l'Assemblée citoyenne donne implicitement pouvoir à ceux qui viennent. Bon. Alors, la réalité est un petit peu différente. C'est que la réalité, c'est qu'objectivement, l'Assemblée citoyenne n'a pas de pouvoir. Bon. Elle aurait un pouvoir, les choses seraient différentes. Tout le principe étant égal, par ailleurs, le principe étant le même, restant le même. Mais on a ce principe avec une assemblée sans pouvoir, puis ce même principe avec une assemblée qui a un pouvoir. Et là, fatalement, on imagine bien que la réaction des gens va être différente. Ils savent que s'ils viennent en nombre, en nombre de ceux qui veulent telle chose, par exemple faire une suggestion, obtenir, par exemple, que le conseil municipal s'engage dans la voie de l'obtention d'un label art et histoire pour la ville de Couches.
Ou de la construction d'une piscine.
Ou de la construction d'une piscine. En tout cas, ce lobby, mais lobby n'étant pas pris là dans un champ péjoratif, un groupe d'expression, et qui va venir en nombre et qui va dire on voudrait ça, et qui sait que ça va influer sur la décision, on va avoir forcément une fréquentation de l'Assemblée. Ensuite, il y a un autre paramètre qu'aujourd'hui on voit et qu'on touche du doigt, c'est tout simplement l'état d'esprit paranoïaque d'un petit village qui fait que à partir du moment où on sait que telle initiative est mal vue de M. le maire, les gens ont peur d'apparaître. Même pas de peur de passer dans un périmètre de si je l'ai vu, samedi après-midi, il était dans la cour. Il était prêt à monter. Je l'ai vu, si. Et si c'était qui? Oui, même si c'était deux. Voilà. Bon.
Mais quand même, le fait d'avoir justement une assemblée citoyenne non élue, où chacun peut venir, ça casse cette façon de penser qui dit on élit des gens et ensuite on ne peut plus rien faire. C'est eux qui décident et c'est fini pour 6 ans, 7 ans ou 5 ans. Tandis que là, on dit aux gens, c'est pas fini, mais il va falloir vous engager, c'est plus compliqué que de simplement voter, ça c'est sûr. Simplement voter et attendre les chances suivantes en disant on va changer parce que ça ne vous plaît pas, ça ne fait pas faire beaucoup de travail. Là, ça fait évidemment travailler. Je pense qu'il y a des gens qui s'y retrouveront, c'est-à-dire, moi je viens travailler parce que justement ça permet vraiment d'influer sur la politique locale et d'être toujours présent là, pas simplement à travers un vote. Et ça peut sûrement faire venir plus de gens que le petit cercle que nous sommes au bout d'un certain temps.
Puis ça dépend du sujet, parce que si on, par exemple, on
parle... La vie des gens, me paraît de sujet suffisant.
On parle de la révélation du SMIC, par exemple, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup plus de gens que de parler de l'église de Couches, de la toiture de l'église de Couches.
Moi, je crois que les habitants, les habitants sont quand même attachés à plein de questions, questions locales. Sinon, ils aiment bien les maires, donc il n'y a pas de raison.
Ils sont plutôt bien vus, les maires.
Ouais.
Oui, l'essentiel des maires, c'est des bons maires. Moi, j'ai été à plusieurs conseils municipaux, dont celui de Couches, mais dans d'autres villages aux alentours, là. Les maires sont réélus. L'exemple de Billardon, de Le Riche, ils sont réélus chaque fois, donc c'est que satisfaction a été donnée.
Ça ne veut pas, forcément dire. Non.
Des fois, c'est parce qu'il n'y a personne en face. Hein.
Non, non, c'est.
Ah oui, non, mais très souvent, il y a une élu faute de candidat et maintenu faute de concurrence.
Absolument.
C'est souvent le cas.
Oui. Hein? C'est souvent le cas.
C'est souvent le cas. Mais néanmoins, mais ça ne fait rien.
Non, mais la question n'est pas.
Une fois, deux fois, mais le riche, ça fait combien de fois qu'il est élu? Biardon, il a été élu combien de fois? Au moins 4-5 fois. Non, mais... Depuis le cabinet du four, Creusot, il y avait Biardon.
La question n'est pas de savoir si un maire, c'est un bon maire ou un mauvais maire. C'est pas ça. C'est de savoir si on veut avoir une personne qui décide pendant 6 ans de tout, voire deux, dans le meilleur des cas, ou bien si on veut que les décisions importantes, au moins, ça se passe avec un minimum de concertation. Voilà. La question n'est pas de savoir si c'est un bon maire ou un mauvais maire. D'autant plus que la plupart des gens n'ont pas les éléments pour juger si c'est un bon maire ou un maire. La preuve, ce que je viens de dire dans le petit exposé, notamment sur les finances. Les gens n'ont aucune idée de l'incidence des décisions municipales et de communautés communes, parce que c'est la même chose. Je veux dire, pour c'est nous, la CL, elle va avoir une incidence sur les regroupements de communes, que ça impacte très très de façon extrêmement factuelle, extrêmement très claire, leur niveau de vie. Voilà. Ça c'est une information que très peu de gens ont.
Oui, mais d'autant plus que dans le système éducatif français, on méprise et on fait une omerta même sur l'éducation, on va dire, financière et économique des gens. Jusqu'au bac, les gens, il n'y a pas de cours d'économie. Non, attends, après, mais même dans les écoles de commerce, mon fils a fait une école de commerce, bah, je veux dire, c'est balbutiant ce qu'ils apprennent. C'est...
Alors,
donc on élit les gens qui n'y connaissent rien, et élisent quelqu'un parmi eux qui n'y connaissait rien, qui n'y connaît rien non plus. Et avec ça, on gère des choses. Et on va à des...
Oui, enfin, c'est un peu...
Non, mais je romance, bien sûr.
Oui, non, mais c'est un peu forcé, quand même, un petit peu, me semble-t-il.
Hein. Mais je fais exprès de forcer. Ouais. Bien sûr que je fais exprès de forcer, sinon... si je dis qu'il s'agit de deux personnes, c'est pas la peine d'en parler.
Mais
alors, moi, je parle de la généralité.
Si on revient sur le thème de... comment est-ce que les gens peuvent être intéressés pour venir à l'Assemblée, hein? Bon. Le thème du pouvoir d'achat est un thème extrêmement important. Parce que les gens n'ont pas conscience, ça c'est notre rôle aussi de leur dire, mais en pesant sur les décisions de la municipalité et de la communauté de communes, hein, vous pouvez améliorer vos conditions de vie. Ça, les gens n'en ont pas conscience. C'est un sujet qui n'est pas abordé. Ça. Voilà. Bon. Et je pense que d'une part, c'est notre rôle de dire, vous savez, que une municipalité, avec l'interco, peut faire baisser les impôts. Et une municipalité peut augmenter le nombre, l'offre de services publics gratuits. Et la vie, finalement, de tous les jours, bah, c'est quand même bien le portefeuille et puis les services gratuits qu'on a. Alors, c'est pas uniquement ça, mais ça joue. En tout cas, c'est là-dessus les gens réagissent, hein. Quand c'est des affaires de portefeuille, les gens réagissent, ils vont dans la rue, ils font des blocages, et quand il y a un service public qui ne fonctionne plus, voilà. Bon, eh bien, il nous a semblé, qu'en réfléchissant sur les objectifs, les tâches de l'Assemblée, c'était ces deux objectifs-là qui étaient de nature à être très clairs au niveau des gens. Qu'est-ce qu'on va venir faire de l'Assemblée? Bah, écoutez, on va voir comment est-ce qu'on peut baisser les impôts. Hein, et comment on peut augmenter les services publics gratuits. Ah, voilà en tout cas une tâche intéressante.
Alors, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, c'est sur ces deux éléments factuels. Et le troisième élément, parce qu'il faut, il y a toujours trois piliers, au minima pour
une minimum. Minimum.
Et c'est la dignité aussi. Mm-hmm. C'est le dévouement, les choses comme ça. Hein, dans la démarche que M. Lecomte, par exemple, envers nous actuellement, c'est... Quelque part, c'est même un affront moral qu'il fait. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est un manque d'éducation. La moindre des choses, c'est de venir faire... Bah, quoi, c'est vrai. Ben,
oui, mais...
Donc, le troisième pilier, si tous les gens... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont méprisés. Il y a beaucoup de gens qui sont méprisés par les autorités, par les représentants, etc. Parce qu'ils ne sont rien, comme certains disent. Ils ne sont rien. Alors que chaque être humain, à mon sens, a besoin au moins d'un million de dignité. J'étais au Creusot ce matin. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui des mendiants, mais avant, il n'y en avait pas au Creusot. Voilà. Parce que Billardon, lui, il payait pour tout de suite qu'il soit dans les maisons, etc. Mais maintenant, on en voit. J'en ai vu trois ce matin, dans la rue, avec rien. Un petit sac à dos, un machin, et tout ça,
Ça, c'est les services publics, justement. Hein, on est dans le...
Voilà, c'est ce que j'appelle... Je regroupe dans la dignité, oui, et le non-mépris, et le respect envers chaque citoyen. Même s'il ne paye pas d'impôts, il a droit quand même à bénéficier de choses gratuites, à bénéficier d'avoir sa soupe, d'avoir... Enfin, je veux dire...
On est dans le sujet. Sur quoi est-ce qu'on juge une municipalité? C'est quelque chose d'un petit peu nouveau aussi, là, parce que les gens, ils votent pour un pour l'autre, maire, ouais. Bon, mais sur quoi est-ce qu'on peut faire des cases où, bon, il y a la case finance, et puis il y a la case service public, et ce que tu décris, là, c'est un service public qui fonctionne bien, et qui aide les gens qui sont dans la nécessité ou pas, ça fait partie du service public.
Ça fait partie du service public. Quand est-ce qu'on commence l'audit là?
Voilà.
Alors, l'énumération du conseil.
Voilà. Alors, moi, je crois qu'il faut commencer. Il faut commencer. Alors, nous avons. Je les ai téléchargés, mais n'importe qui peut le faire. Il suffit d'aller sur mairie-couche.com ou .fr, je ne sais pas quoi. Et puis d'aller dans conseil municipal. Et on a les 10 derniers conseils municipaux en PDF. On fait un clic droit, enregistrer sous le PDF. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'on peut commencer. On peut commencer à étudier, à passer au crible les comptes rendus des conseils municipaux depuis 12 mois. Hein? Et puis, nos réunions, ça peut être justement la mise en commun de... des choses qui auront émergé, hein, avec la grille de lecture que je vous propose, mais il peut y en avoir, il peut y avoir des compartiments supplémentaires. Hein. Alors, il y a une... Bon, parce que j'ai sauté un passage à la fin, parce que le passage était déjà... vous avez déjà été communiqué, qui disait... l'audit d'action communale doit débuter par une analyse détaillée des comptes rendus du conseil municipal depuis mars 2014 et se concentrer notamment sur les engagements financiers de la commune avec une attention particulière portée aux investissements en budget annexe, c'est-à-dire aux dépenses n'entrant pas dans le cadre des activités naturelles de la commune telles que définies dans le code des collectivités territoriales, c'est-à-dire, pour parler plus clairement, des engagements à caractère commerciaux. Ça, c'est pas spécifique à Couche, c'est spécifique à toutes les mairies, plus ou moins. Puisque les mairies, on avait déjà abordé cette question quand on avait dit on va étudier le code des collectivités territoriales avec la ligne de mire. Quelle est la mission que doit faire? Qu'est-ce que fait en fait une municipalité? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut ne pas faire? Qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? Voilà. Bon. Et en fait, lorsqu'on lit en détail le code des collectivités territoriales, on s'aperçoit, et tous les analystes, c'est pas uniquement moi qui dis, mais tous les analystes le confirment, que en fait c'est très très large. Qu'une mairie peut pratiquement tout faire, pratiquement rien ne lui est interdit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, rien ne lui est interdit, il est quand même précisé que sa mission, c'est d'apporter... le maximum de satisfaction aux citoyens. Elle est quand même là pour rendre service. Hein. C'est pas les citoyens qui sont au service d'un potentat même élus, mais c'est bien les élus qui sont au service de la population pour leur apporter les satisfactions maximales. Bon. Et donc, il y a bien entendu les services régaliens qui sont cités, et, au premier chef, l'entretien de l'espace public. L'entretien de l'espace public, la voirie, et puis la gestion des services publics. Alors le problème avec la notion de service public, on l'a abordé déjà lors du grand débat, puis aussi lors des ateliers, de nombreux ateliers que j'ai fait par ailleurs, la notion de service public est mal définie. Elle n'est même pas du tout définie, en tout cas pas constitutionnellement définie. On est incapable de donner une définition précise de ce que c'est un service public. Et donc, depuis quelques années, avec la capitalisation de l'État, enfin l'État faisant de plus en plus main dans la main avec le capitalisme, les pouvoirs publics ont développé des activités commerciales, donc, qu'on appelle les budgets annexes, à savoir que lorsque une mairie entreprend une activité commerciale, évidemment, elle ne le fait pas. Alors, elle le fait avec l'argent. Bien sûr, budget annexe, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui vient d'ailleurs. Non, c'est l'argent du budget.
Du contribuable.
C'est l'argent du contribuable. Hein? Lorsque une mairie investit dans un programme immobilier, lorsqu'elle investit dans un fonds de commerce, ou qu'elle investit dans un équipement sportif, on va prendre trois exemples au hasard, bien, elle le fait sur les finances publiques. Mais elle le traite au niveau comptabilité en budget annexe. C'est-à-dire que on sait qu'il y a tant qui a été investi, tant qui a été dépensé en termes d'investissement ou en termes de dépenses courantes. Et puis, à la fin de l'année, on voit qu'est-ce qui est rentré, parce que ce sont des activités commerciales. Donc, il y a un chiffre d'affaires. Et puis, on voit s'il y a un bénéfice, mais ça, on le voit.
Au moins une balance, oui.
Une balance. Bon. Donc, il y a, d'une part, à regarder si ces activités sont déficitaires ou bénéficiaires. Si elles sont bénéficiaires, elles font rentrer, cette fois, disons, du budget qui est hors prélèvement obligatoire, qui est du budget en fait de bénéfices. Ou bien si ces activités sont déficitaires. Et si elles sont déficitaires, est-ce que le déficit est justifié par un bénéfice important qui est apporté à la collectivité?
Sur le service public.
Puisque, mais un service public, alors c'est pour ça que j'ai bien mis l'accent sur le mot gratuit, pour bien distinguer un service public gratuit d'un service public payant. Service public payant, d'ailleurs, il y a un acronyme, c'est SPIC, Société Service Public Industriel et Commercial. Bon. SNCF, c'est un service public payant. Voilà. Bon. Service public gratuit, ben c'est la police, c'est gratuit. Service public, on te protège gratuitement. La justice.
On te protège aussi.
Je savais que ça allait.
C'était
un mauvais exemple.
Les routes, non?
Un mauvais exemple.
Les routes.
Oui.
C'est gratuit, les routes.
Oui, mais il y a des projets de
privatisation
nationales. Puis sur nos autoroutes aussi.
C'est vrai, Jean-Yann disait, je ne vais jamais sur les départementales. Moi, je ne vais que sur les départementales.
Jean-Yann
il disait, je ne vais pas sur les départementales.
Je ne vais jamais sur les
départementales. Moi, je ne vais que sur les départementales. Je ne vais pas sur les autoroutes.
Oui. Voilà.
Ce n'est pas payant, les départementales.
Ok, vas-y.
Donc, qu'est-ce qu'on disait là? Pourquoi on disait ça?
Service public payant, quoi, par définition.
Oui, mais
il n'est plus vraiment public.
Oui. Mais pourquoi on disait ça?
Oui, non, parce qu'on parlait de la balance, du bénéfice, voilà. Etc. Alors, mais effectivement, par exemple, une ligne SNCF, la population baissant dans les villages, avant il y avait du transit, à Couche avant il y avait 3500 personnes, il y avait de l'activité, etc. Donc mettons il y avait une voie ferrée, bon il n'y avait pas, mais bon. Mais avec maintenant le développement d'autres, la voiture, la dépopulation, etc., la voie ferrée est plus rentable, on paye l'investissement des wagons, du chauffeur, moi je vois à Saint-Léger-sur-Deûne, des fois quand on regarde le train passer, il y a le chauffeur, puis derrière, alors il y a la lumière dans le car, dans les trains, puis on voit un gars, ou des fois deux, ou des fois zéro. C'est vrai, hein, au passage à niveau.
Ça, c'est la SNCF. Hein.
Non, mais voilà. Mais ferme-t-on la ligne ou pas?
Voilà, alors, là, on est sur Audit National. Si on revient.
Oui, mais c'est pareil.
C'est très différent. C'est plus facile à.
Plus facile à voir localement.
Alors, revenons sur notre.
Ce que fait les communes.
Revenons sur notre audit communal. Parce que ça y est, j'ai retrouvé le fil là. Revenons sur notre audit communal. Un des domaines de prédilection, c'est les activités annexes. Voilà. Ces activités annexes qui ne sont pas dans la mission originelle, hein. Les mairies, c'est pas fait pour gérer les fonds de commerce, mais c'est pas interdit. Donc elles le font, et puis voilà, comme c'est un entraînement maintenant, le business partout, l'État fait du business, etc. Bref, d'ailleurs, elle fait du business toujours par sous-traitance et interposée, mais bon. Donc, il s'agit, l'audit doit s'intéresser à cette affaire-là, pas uniquement, hein, mais les budgets annexes, c'est une cible privilégiée pour l'audit. C'est-à-dire, un, est-ce qu'ils sont rentables ou est-ce qu'ils sont déficitaires? S'ils sont déficitaires, est-ce que, par contre, le service rendu à les collectivités est globalement intéressant? Est-ce que ces services commerciaux, ça apporte au public beaucoup de gratuité, par exemple, hein, est-ce que ça débouche sur... Parce que supposons une municipalité qui va investir dans un équipement sportif, et qui va livrer gratuitement à la population équipement sportif, et c'est déficitaire. Bon, c'est déficitaire, mais c'est gratuit, ça apporte des services. Voilà. Bon, c'est ça que l'audit doit évaluer. Voilà. Et puis également, quand on se lance dans une activité commerciale, est-ce qu'on a fait à l'avance une étude de marché? Bon, combien d'investissements de mairie sur des affaires de lotissement, de machin, de trucs se révèlent désastreux, etc. Parce que ça a été fait comme ça, on n'a pas fait d'étude de marché, parce que on a fait ça. Il y a du budget, qu'est-ce qu'on fait? On a 200 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on met là-dedans. Voilà. Bon, alors donc, ça fait partie de l'audit, il faut le dire. Est-ce qu'on a un plan B, par exemple? On sent une activité commerciale, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'il y a au moins un cabinet d'audit qui a fait d'études de marché, voilà, qui a donné un certain nombre de choix? Voilà. C'est tout, c'est pour donner puisqu'on est en train de dire qu'est-ce qu'on fait. Donc on peut étudier, ce que je propose, chacun, les PV, on a 12 à étudier, ou 10, je ne sais pas. Voilà, ceux-là, ils seront dispo, on ne peut pas nous les interdire de consulter. Donc on les consulte. On tire des points qui nous paraissent importants ou des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Alors, parce qu'on a dit questionnement, critique, argumenté, suggestion. Ça je ne comprends pas. Et si elle se retrouve là, le mois d'après, il a fait ça, je ne comprends pas. Bon, question. Critique, enfin non, là. Franchement, on n'est pas d'accord. Suggestion, pendant 12 mois, on ne voit pas apparaître. Par exemple, on m'a dit, lorsque j'ai rencontré le conseil municipal, début septembre, dans le cadre de la réunion que vous savez, et que j'ai répercuté la suggestion de l'ACL sur... l'obtention du label Art et Histoire pour la ville de Couches. On m'a dit on l'a déjà étudié en conseil municipal. Bon, ils n'avaient pas l'air très sûrs d'eux. Hein. Enfin, bon, et puis ça a été rejeté pour tout le budget. Enfin, bon, j'ai dit, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Est-ce qu'on pourrait avoir le conseil municipal, le PV du conseil municipal qui a étudié ça, puis qui a argumenté, oui, ça, c'est possible, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir les arguments pour et contre qui ont été... Est-ce qu'on peut avoir un élément? Bon, apparemment, en tout cas, c'est difficile. Voilà, on ne peut pas les lâcher. Voilà un exemple. Bon, alors, par exemple, Ça, faut le chercher, puisqu'on nous a dit que ça existait. On nous a dit qu'il y avait, que c'était un très important, cette question d'une dernière histoire, parce que ça peut donner ou pas une impulsion au village. Ça suppose des contraintes, on en a déjà parlé, etc. Ça suppose que la population soit d'accord. Mais en tout cas, ça mérite qu'elle soit consultée, qu'elle y réfléchisse. Et que si on rejette ça, non, ça coûte 40 000 euros. Il faut que je refasse mes volets, je veux pas, et puis que la majorité ne veut pas. Bon, ben, très bien, on aura posé la question. La majorité aura été consultée dans le cadre d'un projet, d'une enquête publique. La majorité se sera prononcée pour rien à foutre de. Bon, d'accord. Bon. Mais si tel n'est pas le cas, bon, ben, ça vaut la peine qu'on s'en occupe. Alors. Où est-ce que ça a été étudié dans quel est-ce que vraiment ça a été étudié? On peut se poser les questions vu les cachotteries qu'on nous fait. On peut se poser quand même plein de questions.
Il ne faut pas se poser de questions. Il faut qu'on ait accès aux documents, qu'on les étudie de façon analytique. Vraiment.
Alors comment on fait?
Eh bien, on télécharge. On va sur mairiecouche.fr. On télécharge PDF. mairie-couche.fr. Oui, mairie-couche. Même si tu tapes dans Google,
oui, mairie-couche.
Voilà. Bon, tu as à gauche le menu la mairie ou conseil municipal. Ouais. Ensuite, il y a les publications de conseil municipal. Et bon, si tu ne trouves pas.
Publication de conseil municipal. Enfin,
bon. Et puis, on télécharge le PDF, ça, il y en a une dizaine. Mm-hmm. Et puis, on y va. Alors, PDF, c'est pratique parce qu'on peut. Bon, une phrase que tu veux sourire, tu la surbrilles avec la souris, tu fais copier, CTRL-C, et puis dans un document oui, Word, tu fais CTRL-V, et puis ce qui fait que tu peux
copier. Tu peux pas changer le document, mais tu peux le travailler.
L'annoter.
Sur un autre document.
Un PDF, tu peux pas le modifier, non. Tu peux ajouter des trucs, hein. Tu peux,
Alors, donc c'est une modification.
Oui, mais tu peux ajouter des choses. Tu peux faire un copier. Tu peux copier.
Mmh. Oui, oui.
Sinon, il faut un logiciel spécifique. Je crois que c'est Acrobat DC, qui permet de modifier les PDF. Non, mais là, c'est des PDF. A priori, on peut surbriller les phrases. On peut surbriller les les parties, hein, qu'on veut apporter et donc faire une compilation d'extraits. Et puis, ensuite on met en commun ce qu'on a et on commence à travailler comme ça. Je pense que entre temps, ben, on va avoir accès aux autres conseils municipaux, ce qu'on pourra retracer sur 6 ans l'évolution.
Je veux savoir, la mairie actuelle dans l'équipe des conseillers, elle est du même bord unanime derrière le maire ou il y a une liste qui est d'opposition, enfin qui n'est pas dans la ligne du maire, ou bien ils sont unanimes derrière lui? Enfin, c'est le cas de Saint-Léger, ils ont tous été élus sur la même liste que le maire. Il y avait une liste
concurrente
qui n'a eu aucun élu.
Ça
joue sur les comptes rendus. Je voulais savoir si ça joue sur les comptes rendus.
C'est une excellente question parce que les procédures municipales sont un petit peu compliquées. Enfin, bon, j'ai essayé de simplifier et encore je suis pas sûr de dire des choses tout à fait exactes. Une liste, c'est un nom et puis 15 personnes. Hein. Soit cette liste est à la majorité absolue, à ce moment-là, c'est tous les gars de la liste qui passent. Mmh. Soit elle n'a pas la majorité absolue, et il y a un deuxième tour, et à ce moment-là.
Proportionnel.
Ça peut panacher.
Ça peut panacher,
c'est-à-dire que. La liste qui va être élue, elle va être majoritaire, enfin, il y a une liste majoritaire, et comme elle n'a pas suffisamment de majorité. C'est peut-être pas tout à fait exact,
mais c'est dit.
Comme elle n'a pas une majorité absolue, il y a une partie de l'autre liste.
Bah, c'est les 50% du reste qui sont divisés.
C'est les 50% du reste qui sont divisés.
Non, mais attends, on est dans une petite commune, là, c'est individuel.
Ils ont au moins 50%.
C'est ceux qui ont plus de voix qui sont élus. Quelle que soit la liste, à quelle liste ils sont.
Non, c'est pas forcément.
Non.
À moins de 2000. Bon, écoute.
Alors, c'est combien? Moins de 2000 habitants?
C'est moins de 2000.
Il y a moins de 2000 ici.
Oui. Non, c'est moins de 1000. ton histoire. C'est moins de 1000. Mais bon, en tout cas, c'est une excellente question parce que
c'est tous ceux qui ont le plus de voix qui sont élus, de quelque liste qu'ils soient.
Moins de 1000.
Ben oui.
Moins de 1000.
Les petites communes, c'est à la tête.
Mais là, on est plus de 1000, hein, ici.
Là, c'est à plus de 1000.
La moitié de 1000.
8000. La notion de liste influence. Je connais pas, là.
Mais ça va sortir, ces histoires-là, de savoir comment pour les élections venantes, là, de mars, ça va sortir, le...
Mais on le sait, on le sait. Comment ça, il suffit de se renseigner.
C'est déjà sorti.
Oui.
Ben c'est la difficulté pour les communes qui changent de catégorie.
Oui.
Et ça joue à...
À une voix.
Ben ça joue à une personne pour changer de catégorie.
Oui,
donc
ça se joue...
Donc le scrutin devient différent.
Oui.
Puisque,
voilà. Oui, c'est intéressant.
Sur les années, c'est Nice, quoi. C'est Nice. On vote pour le liste.
Moi, je pense que pour Couche, la liste est passée en bloc, hein, mais...
Oui. On verra peut-être apparaître dans les comptes rendus, peut-être...
Mais il faudrait les comptes rendus il y a 6 ans.
Il faudrait le premier compte rendu suite à mars 2014.
Oui.
Oui, parce qu'il y a bien une assemblée, bah, enfin une réunion.
Bah, il y a l'élection du maire. Parce que
l'élection du maire.
C'est une liste qui passe, c'est pas un maire. Hein.
Non.
Donc, c'est une liste qui passe, une liste de 15 personnes.
Voilà.
Et ensuite, ces 15 personnes se réunissent et élisent le maire.
Il y a le délai, je ne sais plus combien c'est, le temps, ils doivent se réunir. Le doyen préside l'assemblée. Et organise l'élection.
Mais peut-être que Couche est une liste panachée. Je sais.
Moi, je pense que c'est panaché. Parce que M. Lecomte, moi, j'ai collé les affiches avec lui. On collait à droite.
Il y avait une autre liste.
Et puis. Tu parles
des municipales, là ?
Les municipales,
oui. Ah, oui, d'accord.
Non, pas municipales, c'était autre chose.
Ah, ben non, mais les...
Non, mais ça fait rien.
Non, mais si.
On parle des municipales.
Oui, oui.
Vous aviez deux listes ?
Je m'en rappelle plus.
Oui, il y avait deux listes. Il y avait deux listes.
Chez moi, il y avait deux listes. Mais c'était la municipalité sortante qui a été complètement balayée. Ben, on est passé d'extrême droite à centre droit, chez moi. Je préfère un peu.
Ouais.
C'était un honneur.
Étant sur un roue, il y a combien
de... il n'y avait qu'une liste.
Ah oui.
C'est ça.
Ah non, mais tu parles d'Autun, non ?
Je parle de Charbonnat, mon village.
Ah oui.
Mon village.
Charbonnat.
Mon village, j'ai passé d'extrême droite à centre droit. Donc, parce qu'il y a une famille qui a changé de camp.
Encore un peu d'effort.
Non, il ne faut pas rêver. avec 40% de votre peine, au niveau communal...
Il y a combien de...
Pourtant, c'est tous des braves gens, là-bas.
Il y a combien d'habitants à Charbonnat ? Combien d'habitants à Charbonnat ?
Il y en a plein de ce genre de
choses. Mais c'est partout pareil.
Il y a des méchants au centre droit, pareil. Hein.
Non, mais plus on est loin des immigrés, plus on en a peur.
Oui, oui.
Bah après, on en a plus peur parce qu'on est mort.
Donc voilà, c'est ce phénomène-là. Quoi. Donc, après, c'est les peurs que des candidats utilisent pour essayer d'être élus.
Donc, est-ce qu'on... Alors, revenons aux oignons. Est-ce qu'on se fixe comme, comme travail, hein, d'étudier les...
Et puis, voilà. Alors, est-ce qu'on se fixe déjà sur certains points, par exemple... la répartition opérationnelle, travaux, investissements, enfin, est-ce qu'on étudie dans ce sens-là ou pour l'instant on fait un brainstorming?
Moi je propose on démarre dans le métier d'auditeur, d'auditeur citoyen. On lit les conseils municipaux puis on sort.
On sort les
éléments qui nous paraissent. Voilà. Et on en discute. Moi j'ai vu ça.
Tu préviens les autres membres, la CSL, qui ne sont pas là.
Oui, alors par la liste, par la framaliste.
Donc, leur dire la démarche, vous tapez.
Nous avons convenu. Vous tapez, vous sortez, et puis Et puis ensuite, vous venez à l'Assemblée, vous dites « Ah, oh, moi, j'ai lu en mars 2017, là, il y a ce truc-là, je ne comprends pas. Hein. »
Le mec, quelle lecture intéressante, hein, le soir. Merci.
Progressivement, les choses vont s'améliorer, puisque on est plus qu'à 35 000 communes en France aujourd'hui.
Ah bon?
Il y en a 1000 qui ont disparu.
Ah oui. À cause de?
Le groupement communal.
Ah oui.
Ouais. Là, hier soir, je suis allé voir sur les communautés de communes de la Saône-et-Loire, et il y a plusieurs communes, ils indiquent les communes qui ne sont regroupées, non, les communautés de communes. Donc.
Et généralement, sur le nom, les effectifs, une commune où il y a plus de 60 pelés,
non, ça n'a pas de lien.
Avec l'autre commune à côté où il n'y a plus que 30 tondus,
ça n'a pas de lien.
Ça n'a pas de lien.
Alors, c'est il va y avoir aussi un regroupement de communes techniques qui va s'opérer après, puisqu'il y a un certain nombre de communes qui vont pas avoir de maire, hein, pas de candidat. Et donc ça regroupe, mais c'est, enfin, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose.
On a failli, Huchon avait pas de candidat.
Que bon, on est
le préfet a proposé de fusionner Huchon avec la chapelle Huchon. Du coup, il s'est présenté des candidats.
Ah ben oui, ça peut jouer, oui. Ouais. Mais le regroupement de communes, c'est une 36 000 décideurs, c'est beaucoup trop. On va être regroupé avec Saint-Léger. Je trouve ça très bien, très très bien.
Ah,
oui, oui, oui. Oui.
Ah ouais.
Non, le riche est un bon représentant.
Non, mais. C'est pas la question.
Pourquoi?
Non,
c'est pas la question. Il a un nom symbolique, le riche.
C'est pas de sa faute.
Mais. Vaut mieux un riche qu'un comte des argentés.
Oui. Maintenant, couche et tourner du côté de d'auteur.
Non, j'allais jouer au Michon.
Léger du côté de Chalon.
Peut-être qu'il s'appelle Rossilde.
Ah, alors là, je ne sais pas comment administrativement. Regroupement de communes, c'est pas forcément.
Eh bien, si, automatiquement. Le regroupement de deux communes qui sont dans deux communautés de communes différentes va impliquer. Qu'il va falloir choisir une des deux communautés.
Non, mais ça, c'est, on parle de structure. Moi, j'ai regardé des trucs sur Couche, par exemple. C'est quand même la vision de l'avenir, parce qu'on voit que l'évolution du nombre de foyers fiscaux sur Couche.
Il diminue.
Oui, non, c'est à peu près stable. Ah, il y a 800 foyers fiscaux, c'est-à-dire qu'il y a 800 foyers fiscaux.
Ouais.
Hein, et soumis à l'impôt, c'est-à-dire dans ces foyers fiscaux.
À l'impôt sur le revenu.
Fiscaux imposables, c'est-à-dire imposable qu'ils sont imposables.
Sur le revenu.
Sur leur revenu, c'est en baisse. Donc, voilà. Couche, ça veut dire que Couche est sur une pente descendante, c'est-à-dire que le panier moyen de chaque personne. Non, mais c'était stable. Et depuis 2013-2014, on a quand même une légère baisse. Alors, malheureusement, les chiffres, on les a toujours avec 4 ans de retard.
Oui, oui.
Hein, c'est, voilà. Et alors que quand même, les impôts sur le revenu à Couche, en jaune, ça a augmenté. C'est-à-dire qu'il c'est comme s'il y avait eu un apport de gens qui venaient sur Couche et qui payaient plus d'impôts. C'est-à-dire que les gens payent de plus en plus d'impôts sur Couche.
Ah, mais il y a peut-être.
C'est-à-dire qu'il y a.
Il y a plus de pauvres, mais il y a peut-être quelques riches plus riches.
Exactement, c'est le théorème, c'est le truc du sablier, quoi. On est dans l'économie du sablier, c'est-à-dire qu'avec une ségrégation haute et basse. Vous voyez, ça s'arrête pareil, on est du temps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors,
on a la.